Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 26 avril alors que, ben écoutez, je vous avais menti. Honnêtement, je vous avais menti. Je vous avais dit qu'on ferait un balado entre chaque ronde. Ben savez-vous quoi, on va en faire plus que ça durant les séries éliminatoires. On va se parler deux fois là, lors de chaque ronde. Donc aujourd'hui à l'émission, ben on va parler de ce qui s'est passé dans les premiers matchs jusqu'à présent. Donc, ben comme je vous dis toujours, bien évidemment, si vous voulez être certain de ne pas rater un balado, ben c'est encore plus important, c'est les éliminatoires. Suivez-nous là, sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement, FR sur Twitter, X, peu importe comment on l'appelle maintenant, Instagram, Threads aussi. Et abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion pour être certain de ne jamais rater un balado. Donc aujourd'hui, on va avoir à l'émission Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui vont venir nous parler. Les deux gars étaient sur la route là, pour couvrir certaines séries, sont déplacés. Donc on va parler de comment ils ont vécu ça jusqu'à présent, comment ils ont vu ça. On va parler aussi de ce qui se passe dans l'Ouest. Sébastien Deschambault va être avec moi aussi pour parler de ce qui se passe dans l'Association de l'Est. Donc c'est ce qui est au menu pour aujourd'hui. Alors on se lance tout de suite, je les ai avec moi. Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage. Salut, messieurs.
Salut, les gars.
Bonjour, vous deux.
Guillaume, salut, JF. Écoute, merci d'être là ce matin, surtout JF. Là. Écoute, tu viens à peine d'atterrir à l'aéroport à Montréal. Tu étais à New York il y a quelques heures à peine et là, tu es déjà sur le balado. Bon, les séries dans l'Est, les gars, vous avez couvert plusieurs séries. On va en parler, là, mais c'est pas mis à part bon, la série Boston Maple Leafs que Guillaume, justement, tu as été présent depuis le début. C'est pas aussi serré qu'on aurait cru. Hein? Même on va peut-être avoir des balayages. Là. C'est pas le spectacle qu'on espérait en première ronde.
Non, mais si on regarde aussi dans l'Association de l'Est, la fin de la saison, on dirait que les deux dernières équipes, c'était les moins pires qui ont fini par rentrer en séries éliminatoires. Oui, Patrick Roy et les Islanders ont connu une belle fin de saison. Au mois d'avril, c'est l'équipe qui a réussi à coller le plus de victoires afin d'obtenir son billet pour les séries. Mais les Capitals de Washington, c'est un jeu à savoir qui des Caps, qui des Flyers, qui des Pingouins était pour obtenir le dernier billet. Finalement, on y va du côté de Washington, mais il y a quand même un écart de talent important entre les Capitals et les Rangers. Même chose entre les Hurricanes et les Islanders. C'est possible qu'on voit plusieurs coups de balai dans l'Est. Probablement, à mes yeux, la plus grande surprise, c'est de voir que les Panthers ont déjà une solide avance de 3-0 contre le Lightning de Tampa Bay.
Ouais, parlons-en de la série entre les Hurricanes et Islanders, que, comme je disais, tu étais là hier. C'est quand même trois matchs serrés, mais il manque un peu de puissance offensive pour les Islanders pour aller combler, surtout contre les Hurricanes. Hein. Tu ne peux pas accorder beaucoup de buts aux Hurricanes si tu veux l'emporter, parce qu'ils ont peut-être la meilleure défensive de la Ligue, là, selon plusieurs, du moins les équipes en série. Et c'est ça qui manque un peu chez les Islanders.
Meilleur du côté de Uniondale, Patrick Roy après le match, possiblement que c'est dans l'espoir de se consoler un peu, mais il disait s'il regarde froidement cette série, il croit que son équipe pourrait mener 2-1. Le deuxième match, celui où les Islanders menaient 3-0, les Hurricanes ont fini par renverser la vapeur, l'emporter 5-3. Cette rencontre-là, ça a été une domination totale, tant au chapitre des tirs que les tirs tentés. C'était 110 à 39, si ma mémoire est bonne, pour les tirs tentés. Hier, les Islanders ont joué un match honnête, mais une défaite de 3-2. On dirait que la machine défensive des Hurricanes est tellement bien rodée. Oui, les Islanders ont cogné à la porte en fin de série, mais Frederik Andersen n'a jamais été trop nerveux. Et la grande différence aussi dans ce troisième match, il y en a un qui a réalisé les arrêts, Andersen, tandis que les Islanders ont misé sur Sorokin, que Roy avait décrit en matinée comme une Ferrari. Mais la Ferrari est vite rentrée au garage. 3 buts contre 14 tirs. Ce n'était pas un grand départ pour Ilya Sorokin.
C'est justement, est-ce qu'on a une controverse de gardien? On le sait, ça s'est terminé. Je veux dire, la fin de la saison, Varlamov qui s'empare du poste de numéro 1. Bon, Patrick Roy voulait utiliser ses deux gardiens. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Il voulait peut-être faire tourner le vent un peu, mais on se retrouve dans une situation qui est un peu difficile. Être Sorokin, je veux pas dire insulté, là, mais d'avoir été retiré aussi rapidement du match hier, d'avoir perdu ton poste de numéro 1 en fin de saison comme ça. Moi, je suis un gardien, ça me trotte un peu dans la tête.
Oui, mais immédiatement après le but de Sébastien Aho, j'étais sur la passerelle de presse, puis mon réflexe a été de regarder Roy. Ça a pris 0,5 secondes que Patrick, lui, regardait Varlamov au bout du banc. Puis immédiatement, il lui a parlé. Varlamov a tout de suite pris son masque. Il savait qu'il rentrait dans la mêlée. Après le match, on lui a posé la question. Les collègues de New York voulaient savoir comment on gère aussi l'ego, les sentiments d'Ilya Sorokin. C'est pas évident pour lui. Puis Roy a été assez sec en disant, mais vous allez pas aimer ma réponse, mais à cette période de l'année, je me concentre sur mon équipe, non pas sur un joueur en particulier. Donc, c'est pas le temps de dorloter Ilya Sorokin. À long terme, c'est lui le gardien d'avenir du présent et du futur. À partir de la saison prochaine, c'est 8,25 millions par année pour 8 ans. Donc, c'est un long mariage, une très longue association. Roy, possiblement qu'il y a un lien de confiance plus fort avec Varlamov. Il l'a connu à son époque avec l'Avalanche du Colorado. Puis, arrivé en fin de saison, il n'y avait pas le temps non plus de faire plaisir à un ou à l'autre. Il misait sur celui qui gagnait. Celui qui gagnait, c'était Semyon Varlamov, ce n'était pas Ilya Sorokin. Je trouve que la controverse de gardien passe plus doucement à Long Island que si on était à Montréal. Puis hier, les partisans étaient un peu bipolaires. Ils encourageaient Sorokin en début de rencontre. Et quand Varlamov finit par rentrer dans le filet, bien, il criait Varley. Donc, il était heureux, peu importe c'était qui le gardien devant le filet.
C'est pas bipolaire, ça, JF, c'est juste d'être un partisan d'une équipe.
Ouais, mais trop intense.
Ben, ça me fait penser, tu sais, le parallèle est facile à faire avec ce qui se passe dans la série entre les Bruins et les Maple Leafs. Les Bruins alternent entre les deux gardiens depuis le début. Puis je pense que le plan, c'est de ne pas laisser un gardien inactif trop longtemps. Tu sais, faire en sorte qu'il arrive dans un match avec une activité, une période d'inactivité assez longue. Je regarde Sorokin, hier, c'était son 5e départ au mois d'avril, son premier en 8 jours. T'sais, de faire confiance à un moment aussi important d'une série, d'envoyer un gardien qui n'a pas vu d'action depuis une semaine, qui n'en a pas vu en série, c'est un coup de dé, puis les Islanders n'ont pas tombé du bon côté de ce coup de dé-là, mais le parallèle est facile à faire, puis on comprend peut-être mieux pourquoi, justement, les Bruins, on garde l'alternance, même si Swayman semble avoir l'ascendant là, dans cette série-là.
On va en reparler tout de suite après, justement, de ça. Mais avant, je vous demande, les gars, vous êtes Patrick Roy, vous réagissez comment? Puis est-ce qu'il est trop tard pour les Islanders?
Bon, les Islanders vont parler qu'il n'est jamais trop tard. Là. Hier, c'était le festival du cliché dans le vestiaire. Là. Autant Jean-Gabriel Pageau que Noah Dobson, Ken Dursley. Le match le plus important est le 4e. Pour gagner le prochain match, on ne regarde pas le chemin qui est long. J'ai des doutes. Peut-être qu'ils vont gagner un match, là, un soubresaut, question de gagner à la maison UBS Arena. Selon moi, Roy va miser sur Semyon Varlamov pour le 4e match. J'ai pas trop de doutes à ce sujet-là. Mais à point de vue talent, les Hurricanes, c'est une équipe qui est beaucoup plus rodée. Ils ont quand même un Evgeny Kuznetsov au sein d'un 4e trio. Les défenseurs, oui, ils ont perdu Brett Pesce, mais ils ont de bons défenseurs. C'était Tony DeAngelo qui le remplaçait au 3e match. DeAngelo n'est pas monsieur dans son territoire. C'est pas le plus safe défensivement, mais c'est un défenseur qui patine bien, qui relance bien l'attaque. La troisième paire de défenseurs des Islanders, Nick, c'est Mike Riley et Robert Bertuzzo. On parle d'une équipe qui participe aux séries avec Riley et Bertuzzo. Donc, bonne chance aux Islanders.
Et j'allais dire, dans le cas de DeAngelo, ils ont ce qu'il faut pour l'entourer.
Oui, absolument. Ils peuvent le cacher aussi.
C'est ça, exactement.
Il y a Brent Burns, Jacob Slavin, Dmitry Orlov, puis les Hurricanes ont Jordan Staal comme 3e centre. C'est une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs, pas simplement gagner le premier tour. J'ai hâte de voir le prochain choc si jamais ils ont les Rangers de New York dans les pattes.
Oui, exactement. On s'en va à Toronto. Bon, bien évidemment, c'est le printemps. Les bourgeons sortent et la panique s'installe rapidement du côté de Toronto. C'est un refrain qu'on connaît bien, mais c'est ça quand même. Et Guillaume, ça n'en prend pas gros pour que, justement, on commence à se poser de multiples questions à Toronto, surtout de la façon que ça a été. On tire de l'arrière 2-1 dans la série, mais c'est tout ce qui est alentour de cette équipe-là. Qui ne fonctionne pas, qui retient l'attention présentement.
Ben écoute, c'est une tempête qui a été entièrement créée par les Maple Leafs eux-mêmes à partir de la veille du premier match. J'étais à la Dispo Média après la pratique des Maple Leafs. Et c'est à ce moment-là que Sheldon Keefe a dit Il faut rappeler que William Nylander n'était pas sur la patinoire pour l'entraînement. Et à ce moment-là, l'entraîneur a dit « On donnera pas de mise à jour sur son état de santé de toute la série. » Je ne sais pas s'il s'attendait à ce que les journalistes respectent ça puis cessent de poser des questions, mais ça a simplement fait... il y a eu toutes sortes de rumeurs par la suite. Là, on se demandait est-ce que c'est une blessure au bas du corps? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Donc là, il y avait déjà... La série n'était pas commencée, puis il y avait déjà beaucoup d'attention sur ce qui se passait autour de l'équipe. Puis c'est une équipe qui ne peut pas se permettre des distractions au premier tour. C'est une équipe qui a de la misère.
Assez,
qui... Exact. Ils ont déjà un barrage mental contre les Bruins, premièrement, et au premier tour, deuxièmement. Puis là, on s'en va, avant même le début de la série, on est sur nos gardes pendant la disponibilité média. On s'est regardé avec les collègues de Toronto, les collègues de Boston, puis on... Quand ça s'est terminé, on s'est tout dit qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était des réponses, des clichés après clichés. Zéro détendu. On avait l'air de pas vouloir mettre le pied du mauvais côté de la ligne. Donc pour moi, même avant le début de la série, ben là, ça a commencé et puis ça s'est poursuivi. Chaque jour après, on se demandait qu'est-ce qui se passe avec Nylander. Là, il pratique à l'entraînement matinal. Est-ce qu'il va jouer le soir? Blablabla. Il y a eu aussi l'épisode Mitch Marner qui a été blanchi à ses deux premiers matchs de la série. Ses deux matchs. OK, ça n'a pas été le joueur le plus visible sur la patinoire, on s'entend. Mais de là à faire la une du cahier des sports avec l'homme invisible, retirer l'image de Mitch Marner, on voyait juste un fantôme vide, en équipement. Là. Exact. C'était un peu violent pour ce statut de la série. Là. Les Leafs venaient de gagner deuxième match en plus. C'est pas le moment de paniquer. C'est 1-1 dans la série. On revient à Toronto. Donc, tu sais, c'est tout ce cirque-là qui revient à chaque printemps. C'est quand même divertissant comme journaliste parce que ça fait toujours quelque chose à aborder, toujours un sujet à aborder, mais on sent que la marge de manœuvre des Maple Leafs est très, 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 très mince. Puis ça se répercute sur l'organisation, sur l'entraîneur, sur les joueurs. On sent la nervosité là, dans le camp de Toronto.
Il y a un cynisme aussi qui est installé depuis longtemps à Toronto. Il y a tellement ce monstre-là qu'on est incapable de vaincre, celui de gagner en série. Guillaume disait que c'était violent, la une du Toronto Sun. Mais moi, ça m'a fait sourire aussi parce que souvent, on entend que les journalistes montréalais sont probablement les plus difficiles avec les joueurs, qu'on est trop rapide à critiquer. Il faut parfois regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Toronto, ça n'est pas si loin de Montréal. Aux dernières nouvelles, 5 heures en auto, 1 heure en avion, 5 heures et demie en train, ça se fait bien. Puis, on peut critiquer rapidement. Marner boude un peu, mais hier aussi, dans le troisième match, il y a un... avant-hier, il y a une vidéo qui circulait de Brad Marchand. Les Leafs ont peut-être fait l'erreur aussi de vouloir piquer Marchand rapidement. Ah, et ouais, Marchand peut avoir 120 défauts. Marchand, quand tu veux gagner un match, il va répondre présent. C'en était drôle de le voir parler à tous les joueurs au banc, dont à Marner, pour dire « je m'en viens, puis je vais marquer bientôt ». Et il l'a fait. Brad Marchand, c'est un joueur qui a déjà joué pour l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Oui, il a la réputation d'une peste, mais il fait partie facilement des 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey depuis longtemps. C'est tout un joueur de hockey. On a tendance à moins l'aimer parce qu'il est tellement fatigant, surtout à Montréal. Mais Marchand reste un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale et un gars de caractère.
C'est pas pour rien qu'ils l'ont nommé capitaine au sein d'une équipe dont la culture était imbriquée vraiment depuis longtemps. C'était une suite, là. C'est Chara, c'est Bergeron puis c'est Marchand, donc... Ce qu'on ne voit pas dans le vestiaire, le C qui se retrouve sur son chandail, ça en dit long quand on a pris la décision, puis il livre la marchandise jusqu'à présent.
Ouais, puis moi, ce qui retient mon attention, c'est que dès le premier match, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant la mise au jeu initiale, on avait Max Domi aux côtés de Brad Marchand. Domi donne un coup de bâton avant même que la rondelle tombe, comme s'il voulait commencer à jouer la game mentale avec Brad Marchand. Mais Brad Marchand, c'est un vieux routier, c'est un vétéran. Il ne se laisse pas du tout embarquer dans ce jeu-là. Puis c'est Domi et Tyler Bertuzzi qui se font prendre à leur propre jeu parce que Marchand les frustre. Il leur parle constamment sur la patinoire. Après les sifflets, c'est des petits coups de bâton. Je l'ai vu une séquence au dernier match. Il attendait patiemment que le joueur des Leafs le devance pour aller changer. Puis là, il regardait du côté de l'arbitre, regardait pas, petit coup en arrière des jambes. C'est ce genre de choses-là qu'il fait à la perfection. Puis tu sais, Sheldon Keefe est un peu ironique après le match parce qu'on sent qu'il aimerait que Marchand soit plus pénalisé dans cette série-là. Mais il dit, c'est un art, puis il est au sommet de son art en ce moment. C'est un art de faire ça, de déranger, puis de rentrer dans la tête de l'adversaire sans justement être puni, être pénalisé, puis mettre son équipe dans le trouble.
Trouver
au contraire,
la fine ligne là, entre les deux. Là.
Exact. Ouais. Il l'a vraiment trouvé. Au contraire, de l'autre côté, les Domi, les Bertoudi, on se fâche, on se frustre, puis ça donne pas nécessairement des bons résultats. On met souvent l'équipe dans le trouble en écopant de punitions d'indiscipline.
T'en as parlé, Guillaume, mais bon, la situation des gardiens du côté des Bruins, premièrement, t'auras beau demander à Jim Montgomery qui va envoyer devant le filet pour le prochain match. Il va pas répondre. Il y en a même, honnêtement, il est en train de développer un art là, pour éviter la question, pour trouver des réponses quand même assez drôles au niveau de sa formation. Mais Jeremy Swayman est vraiment en train de s'établir comme un gardien d'élite dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu sais, je lisais ton texte, mais il est en train de rentrer dans la tête des Maple Leafs. Ça aussi s'ajoute, là, c'est comme une addition, là, c'est de choses qui ne vont pas chez les Maple Leafs. Puis là, c'est Swayman qui, lui, ben, il ne sait plus comment perdre contre Toronto. Là.
Exactement. Hier, on parlait avec Jim Montgomery de la petite altercation qu'il y a eu entre Max Domi et Swayman lors d'une pause publicitaire. Mm-hmm. Domi sort de son banc, fait semblant de patiner sans trop savoir où aller, là, puis il entre en collision avec Swayman. C'était une petite collision. Là. On s'entend que le gardien en a peut-être mis un peu là, en tombant sur la glace comme ça, mais les Leafs tentent de le déranger. Puis ça, c'est signe que c'est un gardien qui fait le travail devant son filet. À ses 6 derniers matchs, là, si on monte à la saison dernière et qu'on inclut les 2 matchs qu'il a joué dans cette série-là, c'est une moyenne de but à lui de 1.31, un taux d'efficacité de 959. Il a laissé plus d'un but à seulement 2 occasions dans ces 6 matchs-là. Donc là, on regarde ça et on se dit, OK, le système d'alternance, Linus Ulmark a été excellent dans le match qui a commencé, mais il n'a pas gagné. Donc là, ça devient difficile. On a un gardien en Swayman qui a gagné ses 2 départs dans cette série-là. Est-ce qu'on revient avec lui au match numéro 4? Moi, si c'était ma décision, ce serait mon homme. Mais comme tu disais, tu sais, Montgomery est rendu un expert pour éviter la question. Puis il nous laisse tout le temps croire, tu sais, hier, c'était le sujet, justement, Swayman, j'aime son calme, j'aime sa combativité, blablabla. Et là, tu as l'impression, bon, OK, il est vraiment vendu Swayman, puis il finit toujours sa réponse en disant, mais Ulmark est aussi bon, puis l'alternance fonctionne pour nous. Donc, on sait vraiment pas sur quel pied danser quand on analyse ça, mais je veux dire, je pense que là, ça commence vraiment à se dessiner. Swayman a le numéro des Leafs, puis ce serait... Ce serait peut-être une erreur de ne pas continuer avec lui.
Oui, mais en même temps, la différence justement pour le système d'alternance, c'est que là, on a eu 2 jours de congé. Le prochain match, c'est samedi. Ce soir, là, si les gens vont nous écouter en ce samedi. Mais, donc, une journée de plus de repos. Justement, est-ce que tu y vas avec encore Swayman? Tu essaies de prendre une avance de 3-1, puis après ça, tu es confortable pour envoyer une marque. Là.
C'est Swayman disait après le match, moi, j'ai pas besoin de repos. Si c'est un dos à dos, là, pour reprendre la fameuse expression, ou un match aux 2 jours, un match aux 3 jours, il dit, je veux toujours jouer.
Ça. C'est ça, ils disent tout ça, les gardiens. Là.
Exact. Mais là, t'as 2 journées de repos, mais d'un autre côté, si tu regardes, est-ce que tu veux... Ulmark est inactif depuis le match numéro 2. Là, si tu le renvoies dans le match numéro 5, mardi prochain... Ça va te faire presque une semaine d'inactivité. Donc, je pense que c'est ça qu'on va éviter chez les Bruins. Donc, de ce côté-là, ce serait logique pour eux de revenir avec Ulmark parce que, justement, les 2 jours de congé, oui, mais c'est 2 jours de plus à ne pas jouer pour celui qui ne sera pas devant le filet samedi. Donc, ça fait jaser. C'est bon. Puis comme tu as dit, Nick, tu sais, Ulmark ou Swayman... Pour l'instant, je veux dire, c'est même pas un problème du côté des Bruins. Il n'y a pas un match qu'on peut dire « Ah, le gardien a été mauvais, a laissé un mauvais but ». C'est seulement les circonstances qui font en sorte que, bon, on veut y aller avec l'alternance. Puis c'est peut-être qu'on va continuer dans cette voie-là.
C'est fou à quel point la dynamique a changé en séries éliminatoires. Même, c'est pas juste on est habitué avec les Bruins, mais c'est pas juste les Bruins. Il y a dans d'autres séries là, que Ben, on a parlé avec les Islanders, là, que Patrick Roy l'avait dit, qu'à un moment donné, il allait probablement utiliser Sorokin. Tu regardes la façon que ça s'est fini pour Toronto lors du dernier match. Est-ce que tu t'attends à ce qu'on rebondisse pour celui de samedi?
Ben, les Maple Leafs ont bien rebondi tout au long de la saison. Là. C'est ce qu'on disait après le premier match. Chaque fois qu'on a eu des séquences de défaites ou des mauvais matchs, ben on est revenu. C'était pas un mauvais match au dernier duel. Là. Ça, les Leafs sont quand même bien faits. Je pense que j'irai avec les Maple Leafs parce que je m'attends à une longue série. Là. J'ai dit les Bruins en 7, donc ça me surprendrait qu'une équipe prenne les devants 3-1, surtout que c'est à Toronto. Je sais que les Maple Leafs sont sur une vilaine séquence à domicile, mais il faut trouver un moyen de se servir de l'énergie de cette foule-là qui est, disons, en demi-teinte. Là. C'est une foule qui réagit beaucoup. Là. À Boston, les deux premiers matchs, vous ne me voyez pas en ce moment, j'ai mes écouteurs, j'ai gardé mon casque d'écoute sur mes oreilles tout le match parce que c'était tellement bruyant. On met de la musique rock dans les pauses. Les gens dansent, les gens sont à veille de déchirer leur chandail chaque fois qu'ils passent à l'écran géant. À Toronto, on a un peu moins ça, mais c'est une foule qui réagit. Donc, quand on marque, ben, il y a un momentum qui s'installe après. Sauf quand Brad Marchand marque 28 secondes après un but égalisateur comme dans le dernier match. Là, mais il faut trouver un moyen, faut que les Leafs trouvent un moyen de se servir là, de cette énergie-là parce qu'à 3-1, retourner à Boston, ça serait une autre commande là, pour la troupe de Sheldon Keefe.
Avant de parler du match de ce soir entre les Capitals et les Rangers, je veux glisser un mot. Bon, Lightning Panthers, la série, série extrêmement serrée, mais complètement au niveau des résultats à l'avantage des Panthers. Êtes-vous surpris à quel point bon le Lightning, il manque un peu là, il manque juste ce petit surplus-là qui devrait peut-être venir de Nikita Kucherov, mais jusqu'à présent, Nikita Kucherov, c'est plus calme, là, sauf en avantage numérique.
Mais peut-être qu'en saison, on a réussi à réaliser de petits miracles du côté de Tampa Bay en l'absence de Sergachev. Mais quand vient le temps des séries, Victor Hedman ne peut pas jouer 48 minutes par match. C'est pas du basket, c'est du hockey. Je trouve qu'à la ligue bleue, le Lightning, c'est mince comparativement à les Panthers. Puis on assiste peut-être au changement de la garde aussi en Floride. Les Panthers vont être probablement la meilleure équipe de la Floride pour les 3 à 5 prochaines années. Le Lightning pourrait toujours rebondir. C'est une équipe qui a énormément d'expérience avec les Stamkos, avec Kucherov, avec Braden Point et compagnie. Je serais surpris de les voir perdre en 4. J'ai confiance en John Cooper pour y aller là, d'un petit électrochoc pour le prochain match. Perdre en 4 aussi, c'est battre Vasilevski 4 fois d'affilée. Mais Bob joue du très bon hockey ouais. Du côté des Panthers. C'est étonnant de voir 3-0, mais les Panthers ont une très, très belle machine d'hockey.
Ça vous donne confiance, justement, parce que les Panthers ont été allés en finale l'année dernière. Bon, est-ce que c'était juste un coup de chance? On se demandait, parce qu'on se souvient, t'es entré dans la série éliminatoire par la porte d'en arrière. Mais là, quand on regarde la façon qu'ils jouent contre le Lightning, ils vont être à surveiller jusqu'au bout. Là. C'est une équipe qui est capable d'aller au bout, même s'il va y en avoir d'autres du genre dans l'Est.
Ben, je pense que cette édition-là des Panthers est plus solide que celle qui a atteint la finale l'année dernière. Là. On a un peu plus de profondeur. On joue de façon très organisée. Puis c'est quand même... il n'y a pas si longtemps, il était de passage à Montréal. Il était sur une mauvaise séquence. Puis là, on se mettait à se demander est-ce que les Panthers vont s'écraser au premier tour des séries. Puis là, depuis le début des séries, là, j'ai vu quelques minutes là, du match qui est allé en prolongation, le troisième. Bobrovski est spectaculaire devant son filet. Puis c'est Vasilevski a souvent fait la différence dans les dernières années pour le Lightning. Mais là, on dirait qu'il...
Pas mal
égal là, devant le filet, exactement. Donc, c'est peut-être là que la différence va se faire. Puis, comme JF dit, je pense que le Lightning n'a pas dit son dernier mot. Là. L'expérience et tout ça va leur permettre peut-être d'arracher un match ou deux de rendre ça intéressant. Mais les Panthers, ils envoient un sérieux message dans ce début de série.
On termine la portion, ce tour d'horizon de ce qui se passe dans l'Est avec la série Capitals-Rangers. JF, tu t'es promené en train.
Je me suis installé à New York. Donc, j'ai fait les deux premiers matchs des Rangers et match numéro 3 des Islanders. Mais j'ai surtout fait beaucoup de déplacements en train. Les Rangers, oui, c'est le Madison Square Garden. Formidable place au coin de la 33 et de la 8e. Mais le Madison Square Garden est toujours rempli et les Knicks étaient en même temps à New York. Donc, on chevauchait un match des Rangers, un match des Knicks, un match des Rangers. Et quand les Rangers patinent, bien, leur centre d'entraînement est pratiquement l'équivalent de Shawinigan pour nous. C'est à Tarrytown, mais Tarrytown, c'est une bonne heure en train. Juste pour vous donner un petit exemple là, de la congestion pour les arénas du côté de New York, quand les Capitals de Washington se cherchaient une glace, ils ont choisi de patiner à Newark. Donc, ils étaient dans un autre état au New Jersey, mais ça se fait bien en train, c'est facile, c'est 20 minutes. Et si tu survis à la marche entre la gare de train et l'aréna, t'es rendu techniquement en 28 minutes. Donc, c'est beaucoup de déplacements, mais si on parle hockey, c'est une série où les Rangers mènent 2-0 et au dernier match, j'ai le sentiment que les Caps ont peut-être joué le meilleur match qu'ils pouvaient offrir. Ils n'ont pas gagné et j'ai surtout hâte de voir la réaction, la réponse d'Alex Ovechkin qui, pour reprendre les mots de son entraîneur Spencer Carberry, est éteint depuis le début de cette série.
Oui, c'est pas rien de voir un entraîneur critiqué publiquement comme ça. Il a dit la vérité. Il l'a pas planté, là. Il a dit la vérité. Mais en même temps, ça en demandait beaucoup à Alex Ovechkin de mener cette équipe-là sur ses épaules à son âge, avec un entourage qui est, tu sais, John Carlson, et plus John Carlson d'antan, il n'y a plus Nicklas Backstrom. Est-ce que c'est réaliste de s'attendre à autant de choses d'Alex Ovechkin alors qu'il est aisément la cible à isoler pour la défensive des Rangers?
Mais c'est un joueur qui a connu une belle fin de saison, a réussi encore à marquer 30 buts. Ovechkin a 39 ans sur papier, mais il a plus de cheveux blancs que mon parrain Denis, qui lui a 85 ans passé. On en demande beaucoup à Alex Ovechkin. Puis j'aimais les explications de Carberry. Oui, on peut dire qu'il l'a critiqué, mais ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'Ovechkin trouve pas des façons de décocher des tirs. Fini le match, premier match, blanchi, aucun tir. Deuxième match, ma mémoire est bonne, c'est un seul tir et c'est à peu près à la deuxième minute. Donc, il menace pas non plus Shesterkin. En avantage numérique, on tente de trouver des formules pour le libérer. Mais les Rangers, à ligne bleue, t'as Jacob Trouba, t'as Adam Fox, t'as Ryan Lindgren. Il y a toujours de bons défenseurs. T'as Schneider, un jeune défenseur. Donc, ils ont plusieurs options pour contenir Ovechkin. Ça fonctionne. Possiblement qu'on espère qu'en jouant à Washington, en ayant la possibilité de choisir les confrontations, le dernier changement, qu'on va pouvoir un petit peu libérer Ovechkin. Mais cette série-là, pour l'instant, est à l'avantage des Rangers.
Puis pendant ce temps-là, chez les Rangers, tu sais, tout baigne. En attaque, ça vient d'un peu tout le monde.
T'as 8 marqueurs différents. C'est ça, Panarin n'a pas encore, je trouve, allumé la switch. Mm-hmm. Trocheck joue du bon hockey. Même chose pour Zibanejad, Kreider. C'est une équipe qui est très, très bien équilibrée. Et on ne peut pas dire la même chose du côté des Caps. Puis en plus, du côté de Washington, on doit se débrouiller sans Rasmus Sandin, sans Nick Jensen depuis le début de cette série. Puis on parle quand même de deux défenseurs qui donnaient 20 minutes et plus par match. C'est une équipe aussi qui était vendeur à date limite des transactions. Donc, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. On a vendu quelques pièces. On participe quand même aux séries. Mais vient un temps où on ne peut pas non plus refermer tous les trous. C'est une équipe qui est plus faible que les Rangers, tout simplement.
Donc, on ne devrait pas revivre le scénario de l'année dernière quand les Rangers avaient pris l'avance 2-0 contre les Devils avant de perdre les 4 matchs suivants. C'est pas dans ta boule de cristal, là, présentement, Jeff.
Ben, c'est une bête différente. Les Devils avaient quand même Jack Hughes, beaucoup de joueurs talentueux offensivement. Du côté des Caps, si tu réussis à arrêter Ovechkin, ensuite il y a Strome. C'est mince, là. Backstrom n'est plus là, Kuznetsov n'est plus là. Les années glorieuses des Capitals de Washington, pour moi, font partie du passé. Hendrix Lapierre est un jeune intéressant, cogne à la porte pour avoir plus de temps de jeu, mais quand il se retrouve confronté à Trocheck ou à Zibanejad, Là, il y a Vanberg qui a peut-être un état de santé douteux pour le troisième match.
Devrait jouer selon ce qu'on voyait aujourd'hui. Bon,
si Vanberg est en uniforme en plus, c'est sur papier, il y a un déséquilibre très net entre les deux formations.
Et c'est beaucoup à demander à Charlie Lindgren de voler un match dans cette série-là. Surtout quand tu as Shesterkin de l'autre côté qui peut rendre l'appareil assez facilement. Là.
Le premier match, on sentait Lindgren nerveux. C'était son premier match aussi en série pour Charlie. Mm-hmm. Mais honnêtement, de placer le blâme sur ses épaules, je crois que ce serait beaucoup trop gros.
Oh ouais.
Lindgren fait son possible avec une équipe devant lui et surtout une ligne bleue qui est très, très, très moyenne et le mot est poli.
Les gars, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous laisse partir. JF, tu as des valises à défaire. Guillaume, de toute façon, là, vous allez repartir éventuellement sur la route, terminer tout ça dans les prochains jours. Donc, un petit pit stop à Montréal avant de repartir. Vous allez être sur le prochain balado aussi. Bon, on va parler.
Un dernier petit mot, les gars. Si vous regardez les Rangers, portez attention à Alexis Lafrenière. Quand on dit qu'Alexis Lafrenière commence à sortir de sa coquille, c'est pas juste offensivement. Regardez la quantité de batailles à un contre un et le nombre de fois qu'il récupère les rondelles pour aider Trocheck, pour aider Panarin. C'est maintenant un joueur clé chez Rangers de New York.
C'est tout. Je suis content. Non, mais je suis content pour lui parce que ça n'a pas été facile. Son début de carrière, les attentes étaient grandes. Et souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, là, on disait échanger. Il y avait des rumeurs, mais les gens disaient. Montréal devrait offrir le cinquième choix l'année dernière pour Lafrenière. Ça n'a jamais été dans les plans des Rangers. Puis on a bien fait d'être patient avec lui et de lui laisser le temps de se développer. Parce que là,
exact. Puis on a choisi de le placer à l'aile droite plutôt qu'à l'aile gauche. Et il a pris du temps, mais on a trouvé une place au sein du top 6. Dans les gradins du Madison Square Garden, c'est encore Panarin, c'est encore Zibanejad, c'est encore Shesterkin, Trouba. Mais on commence à voir aussi les chandails numéro 13 d'Alexis Lafrenière. Donc, s'il peut briller au MSG, tant mieux pour lui, ce sera une belle histoire.
C'est le processus. Faire confiance au processus, comme on entend si souvent dire. OK, c'est ça, les gars. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On va se reparler prochain balado entre la première et la deuxième ronde. On ne sait pas ça va être quand exactement, mais vous allez être là, je l'espère, si tout va bien.
Yes! Fait plaisir, Nick.
Merci, les gars. Et maintenant, pour parler de ce qui se passe dans l'association de l'Ouest, j'accueille avec moi Sébastien Deschamps. Beau, salut Seb!
Salut Nicolas!
Comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. S'il y a une équipe pour qui ça va pas mal moins bien, Seb, c'est les Stars de Dallas. Écoute, on était plusieurs à les voir en finale de la Coupe Stanley. Je peux te dire, je sais pas toi au niveau de tes poules, mais moi, il y en avait quelques-uns qui avaient les Stars en très haute estime, mais ça commence absolument pas comme on voulait pour les Stars. Là.
Non, je te confirme que c'était le choix le plus populaire dans mes différents pools. Je pense qu'il y en a un où on est 13 et il y en a 10 qui les avaient mis en finale, dont 8 champions. par contre, on avait déjà fait, nous, à l'interne, nos prédictions. Puis, je dois dire que quand là, on regardait la dernière soirée où les Golden Knights et les Kings étaient en action, en tant que gars qui avait mis les Stars aller loin, je regardais les résultats des deux matchs, puis là, quand je voyais le duel contre les Golden Knights se dessiner, j'étais « Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle. »
Oui, c'est clair. Hein? On se souvient, les Golden Knights ont perdu leur dernier match de la saison, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans la deuxième place de quatrième as. Tu sais, si t'étais à Dallas à ce moment-là, tu faisais « Oh, s'il y a une... » On aurait préféré que les Golden Knights l'emportent. Là, c'est pas ce qu'on voulait comme résultat. Ben là, on le voit. Parce que les Golden Knights, c'est une équipe qui a énormément d'expérience. On dit toujours, hein, Sam, on dit toujours, les Golden Knights, c'est une équipe d'expansion il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si tu regardes le chemin de ce noyau-là dans les dernières années, c'est une équipe qui a plus d'expérience que la majorité en séries éliminatoires. Donc, et là, ça se sent là, dans cette série-là. Parce que là, on voit cette solide défensive-là de Vegas. On avait un peu oublié, là, ça n'a pas été une saison facile pour Vegas, mais là, on a seulement donné 4 buts lors des deux premiers matchs aux Stars. 3 buts, 4-3 le premier match, 3-1 la deuxième rencontre. Et là, soudainement, ben, on mène la série 2-0. Écoute, es-tu inquiet? Es-tu déjà prêt à lancer la serviette là, pour les Stars?
Ben, inquiet, oui, parce que, bon, comme je te dis, dès la seconde que j'ai vu que ça allait être leur prix, leur récompense pour terminer premier de leur association, d'affronter ce qu'on pourrait dire potentiellement la meilleure équipe de l'histoire à finir en deuxième place de quatrième as, en tout cas du moins sur papier. C'était déjà inquiétant de voir l'allure des deux premiers matchs. En fait, l'allure. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, non, évidemment, je ne suis pas prêt à acheter la serviette envers les Stars, qui demeurent une formidable équipe, puis qui ont, chaque fois qu'ils vont sauter sur la glace, vont avoir une chance de l'emporter. Par contre, l'allure des deux premiers matchs, dont le premier, on peut dire qu'il était temps que ça finisse pour les Golden Knights. Tout le jeu se déroulait juste d'un côté. On n'a pas atteint les 20 lancés du côté des Golden Knights. Alors que le dernier match numéro 2, là, c'est les Stars qui, même s'ils avaient besoin d'un but en troisième période, n'étaient pas capables de s'approcher du filet de Logan Thompson. Je pense qu'ils n'ont pas de tir au but dans les 6 minutes 45, quelque chose.
6-25, si je ne me trompe pas, là, ça, dans
donc,
ce point-là. Ouais.
Dans la fin de la troisième période, alors qu'on a besoin d'un but. Donc, c'est là qu'on voit à quel point c'est difficile de donner les devants aux Golden Knights en série avec l'équipe sur laquelle ils misent actuellement en série, avec tout le monde en santé. C'est tout un test.
Logan Thompson, le gardien qui en parlait justement, puis qui dit « Tout le monde me rend la vie tellement facile. » Parce que c'est difficile de s'approcher puis, du filet de Vegas. C'était ça l'année dernière aussi. C'est la recette dans les dernières années. Justement, cette brigade défensive-là qui est solide. À partir de là, ça te prend un gardien qui est juste correct. Là. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'un gardien qui est candidat au trophée Vézina. Juste un gardien qui va faire les arrêts importants, qui va pas laisser passer un ballon de plage. Et c'est le cas de Thompson là, qui en profite parce que lui, on se souviendra, l'année dernière, il n'y en a pas eu de séries éliminatoires alors qu'il avait été un très gros morceau de cette équipe-là pour l'amener en série. Là.
Exact, il avait été blessé, donc il avait été sur les lignes de côté pendant les séries. Et on a vu que Adin Hill, qui a fait... C'est un copier-coller. Là. Adin Hill, personne est en train de remplir sa candidature pour le Temple de la renommée. Par contre, une bague de la Coupe Stanley à son doigt parce qu'il a pu faire les arrêts opportuns. Il devait faire les arrêts qu'il devait faire. Et Logan Thompson fait la même chose cette année. Jouer derrière cette brigade défensive-là, c'est un luxe que les gardiens aimeraient tous, sur lesquels les gardiens aimeraient tous compter. Écoute, on mise sur... Il a parlé de l'expérience de ce noyau-là, puis à chaque fois qu'un joueur de premier plan se... devenait libre, on dirait qu'il trouve une façon de l'ajouter à ce noyau-là. Un Alex Pietrangelo, par exemple, qui n'était pas là à la base, mais qu'on a ajouté, gagnant la Coupe Stanley, candidat au trophée Norris. Donc,
Noah Neffen aussi cette année-là.
Exactement. Ça, c'est la dernière en liste avec Thomas Hertel, Mark Stone qui revient. On parle de la défensive, mais Mark Stone, c'est un joueur un des rares alliés qui peut être en liste pour le trophée Selkie à chaque année quand il est en santé. Donc, c'est un joueur sur lequel on peut vouloir compter en série. Et puis, jusqu'à là, tu fais du très bon travail déjà.
Puis là, tu as Alec Martinez qui va revenir au jeu aussi. Donc, c'est là, ouais. Soudainement. Là,
mais si on parle de profondeur.
Ça tout tombe en place parce que, tu sais, il faut le dire, là, les Golden Knights, c'était une saison difficile, mais tout le monde savait là, que c'était comme un feu qui couvre. Là. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Là,
oui.
Tout le monde le savait, il n'y a personne qui voulait les affronter en première ronde.
Non, surtout, on parle de profondeur. Nick Hague tombe au combat, c'est qui? Pour le remplacer, on a Alec Martinez, un autre gagnant de la Coupe Stanley, qui souhaitait être le guide défenseur numéro 7 chez les Golden Knights, alors que pour la majorité, ce n'est pas la totalité des équipes, ce joueur-là a un rôle important au sein d'une brigade défensive. C'est incroyable la profondeur qu'on a chez les Golden Knights.
On parle de la défensive depuis tantôt, mais là, il faut regarder ce qui se passe en attaque. Jonathan Marchessault, là, sérieusement, là, c'est complètement fou. Parce que là, je veux dire, il est sur une séquence de 12 matchs consécutifs avec un point à séries éliminatoires. Je regardais là, sa fiche depuis depuis les 17 derniers matchs en séries éliminatoires, c'est 26 points. Il n'y a personne qui a fait mieux ça dans la Ligue. Bien évidemment, il a joué plus de matchs que tout le monde dans la Ligue, mais quand même... Marchessault continue d'aller chercher des points en séries éliminatoires, de prouver que c'est, en bon français, un gamer pour un joueur qui tombe joueur autonome sans compensation cet été, continue de remplir son curriculum vitae.
Donc, oui, puis écoute, on a tenté différentes expériences. L'année dernière, son trio avec Jack Eichel et Ivan Barbashev avait été hallucinant en séries éliminatoires. On s'attendait peut-être à ce que ça poursuive sur cette lancée. Barbashev avait été acquis en cours de saison l'an dernier. On lui a accordé une nouvelle entente. On s'est dit, ah, ce trio-là va connaître une saison régulière exceptionnelle. Mais ça n'a pas bien fonctionné. On les a séparés par moments. Et là, ils ont retrouvé leur air d'aller juste avant les séries éliminatoires. Et ça se poursuit maintenant. C'est un trio sur lequel L'entraîneur Bruce Cassidy peut se tourner sans aucun problème. Il sait qu'ils vont générer de l'offensive. Puis ça, tu sais, veut pas la chimie, ça arrive, mais ça se développe. Puis là, on a juste pu voir le but de Marchessault dans le match numéro 2, la belle passe de Jack Eichel. C'est le genre de jeu qui
les automatismes.
Exact. Puis ça se bâtit au fil du temps. Donc, ils vont devenir encore meilleurs à force de jouer ensemble. Donc, c'est un petit peu épeurant pour le reste de la ligue.
Oui, exactement. Et là, la question aussi chez les Stars, ben là, on n'a pas de points de Matt Duchene, on n'a pas de points de Joe Pavelski, on n'a pas de points de Tyler Seguin, pas de points de Rupien. Les gros éléments, les gros morceaux du casse-tête vont devoir se lever chez les Stars parce que on se doit absolument de trouver des lignes là, pour des lignes de tir pour aller chercher Logan Thompson dans le filet. Et on en a parlé, je veux dire, après la dernière partie, Peter DeWeer a dit « Je trouve qu'on a bien joué, mais il nous manque cet élément-là. Il reste que 4 pas de tir dans les 6, presque 7 dernières minutes du match. Là, c'est problématique. Et là, ce qui est inquiétant chez les Golden Knights, bien évidemment, c'est qu'on a perdu nos 9 de nos 11 derniers matchs. J'ai dit Golden Knights. Ce qui est inquiétant chez les Stars, c'est qu'on a perdu 9 de nos 11 derniers matchs contre les Stars. Voyons, contre les Golden Knights, je vais le dire. Mais vous comprenez, là, à la maison. Mais Mais c'est particulièrement inquiétant parce que visiblement, on a la clé du succès chez les Golden Knights contre les Stars. Puis, tu sais, on l'avait peut-être pas vu ça en début de séries éliminatoires. Il me semble que ces deux matchs-là font juste rajouter une couche de glaçage sur le gâteau qui est en train de lever là, chez les Golden Knights.
Il y a certaines équipes qui sont bâties pour en affronter d'autres, on dirait.
Ouais.
Je dirais que les Golden Knights sont bâtis pour affronter n'importe qui. Les Stars, écoute, c'est une équipe qui a tellement de profondeur. Tu as parlé des gros canons. L'avantage qu'on a chez les Stars, c'est qu'il n'y en a pas juste un trio. Si vous portez pas l'attaque à bout de bras, on n'a aucune chance. Il y a eu énormément de profondeur. Le temps de glace était réparti. Cette année, les Stars ont conjointement, les joueurs font un effort de « OK, regarde, moi, mes statistiques personnelles, là, ça ne me dérange pas. Je vais les sacrifier un petit peu. » Redistribue le temps de glace à tout le monde, donne les responsabilités à plus de gens. Un joueur comme Jason Robertson, 46 buts l'année dernière, saison incroyable. Cette année, qu'est-ce qu'on fait? On diminue son temps de glace, on diminue ses responsabilités pour les redistribuer. Et tout le monde a acheté ça. Donc, il y a toujours un trio, que ce soit celui de Wyatt Johnston avec Jamie Benn, avec le Logan Stankoven, celui de Robertson. On a des options, on a des outils. Il suffit qu'il y ait un de ces trios-là qui perce la muraille, qui l'étincelle, disons, pour un match, et puis après ça, ça pourrait être un autre pour le match suivant. Il y a des options, c'est loin d'être terminé. Par contre, le match de samedi, ça va être un gros mandat. Je pense que on va tenir à ne pas tomber en retard 3-0 là, pour les Stars.
Ben c'est ça. Puis on revit un peu le cauchemar de l'année dernière. Souvenez-vous, en finale d'association, quand les Golden Knights avaient pris cette avance-là, 3-0 contre les Stars. On joue notre saison. Il n'y a pas de doute. Demain, on va vraiment jouer notre saison du côté des Stars. La bonne nouvelle, c'est qu'on est la meilleure équipe cette année dans la Ligue à l'étranger. Donc, on sait comment, vraiment, au niveau des combinaisons, des match-ups de trio, on sait comment connaître du succès, mais même à ça, je suis pas super optimiste, soudainement.
Ben, écoute, je pense que les Golden Knights vont vraiment pas tomber dans le piège des sous-estimés, parce que l'année dernière, tu as parlé, justement, finale d'association, même 3-0. Les Stars sont venus 3-2. Là. On était à quelques minutes là, de forcer un match numéro 7. Les Golden Knights savent très bien que de l'autre côté, il y a une équipe qui est loin d'être battue. Donc, on va pas lever le pied, on va pas penser qu'on va pas regarder plus loin la deuxième ronde en se disant, bon, c'est qui nos prochains adversaires? Je pense que les joueurs des Golden Knights ont assez d'expérience précisément contre cette équipe-là en plus pour savoir que c'est loin d'être terminé.
On poursuit avec ce qui se passe dans l'Ouest. Bien évidemment, là, au moment où vous nous écoutez, là, nous, on enregistre ça vendredi matin, mais... il va y avoir trois matchs ce soir dans l'Ouest, ce vendredi soir. Mais je veux quand même parler de la série Canucks-Predators. La perte de Thatcher Demko, visiblement, là, ce ne sera pas à court terme. Ça ne semble pas se diriger vers ça. Immense perte du côté des Canucks, le gardien. Là, on se retrouve avec Casey DeSmith et Arthur Silovs dans le filet des Canucks. Soudainement, là, les Canucks, tu y crois? Ben, sur papier, je considère quand même que les Canucks sont une meilleure équipe que les Predators, mais il n'y a rien qui fonctionne pour les Canucks jusqu'à présent. Elias Pettersson, qui connaît un très lent début de saison, qui est un peu invisible sur la glace. Et là, tu perds le gardien. Je regardais les statistiques avancées là, cette année. Là. Demko sauve en moyenne, pas tout à fait, là, un petit peu moins, là, qu'un demi-but par match. Donc, c'est immense. Je sais que ça n'a pas l'air beaucoup, là, un demi-but par match, mais dans une série de 7 matchs, là, ça veut dire qu'il va te sauver de 3 à 4 buts. Ça fait la différence, surtout quand tu regardes d'autres séries, puis c'est des différences de 1 but par rencontre là, qui donnent la victoire ou la défaite.
Oui, ben écoute, nous, moi, de mon côté, j'avais, avant même la blessure à Demko, quand on a fait nos prédictions, j'avais donné la victoire aux Prédateurs.
Fallait que tu dises.
Ben, sauf que on s'entend. Je donnais déjà un petit edge. Et là, maintenant, est-ce qu'ils sont en difficulté? Ben là, la différence, là, ça, quand on a entendu la nouvelle, on a tous fait oh là là, ça va être difficile. Les Prédateurs sont arrivés en série. On parle toujours d'arriver en confiance sur une lancée en série. Puis c'est exactement ce que les Prédateurs ont fait.
Sont en série depuis la mi-saison, les Predators.
Exactement. Puis. Ce groupe-là, là, vraiment, a acheté le plan d'Andrew Brunet. C'est une équipe qui est difficile à affronter. Un Jérémy Lauzon à la défense des Prédateurs, ça fait mal qu'on en a de son côté. Roman Josi, probablement, encore année après année, un des trois meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, un des plus complets. C'est difficile avec Jussi Saros derrière, qui est un gardien qui a déjà fait ses preuves. Donc, c'est difficile de marquer contre cette équipe-là. Avec la parlé d'Elias Pettersson, on a tous vu sa réaction qu'il a manqué un filet complètement abandonné en avantage numérique dans le match numéro 2. Il est dans un creux de vague, ça ne fonctionne pas comme il veut, et là, on n'a pas beaucoup de temps, et on a besoin de marquer des buts, parce que tu l'as dit, là, Demko qui nous sauve des buts derrière, c'est un Casey DeSmith qui n'a pas très bien terminé l'année, et un adjoint qui était dans la ECHL il n'y a pas si longtemps.
On salue tout le monde à Trois-Rivières.
Les Lions qui peuvent nous parler de Noemi Siloves. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une grandiose nouvelle de perdre. Écoute, s'il est en santé, Thatcher Demko est probablement le meilleur rival pour Connor Hellebuyck pour le trophée Vézina. Même que, écoute, il a quand même gardé les buts assez souvent. Thatcher Demko pourrait être encore dans la conversation. Peut-être le plus grand rival de Connor Hellebuyck. De perdre un pilier comme ça, ben, écoute, Casey DeSmith, sans rien vouloir lui enlever, on se souviendra que c'était. On cherchait un auxiliaire à rabais et c'est les Canadiens de Montréal qui l'avaient un peu par défaut parce qu'il avait été mis dans une transaction, on avait besoin de liquider du salaire chez les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'était pas le plan original d'avoir Casey DeSmith comme partant dans les séries éliminatoires, c'est sûr et certain.
Je me demande vraiment si j'enverrais pas Siloves Van Filet.
Jamais il connaît des difficultés.
Non, mais oui, si DeSmith a des difficultés, mais tu sais, c'est un gardien, là, parfois... Là, presque pas d'expérience dans la LNH. Tu sais, la naïveté ou la chance du débutant au golf ou peu importe, appelle ça comme tu veux. Je me demande, parce que c'est un gardien quand même qui a connu des bonnes passes. Il y a eu deux bons matchs cette année sur quatre. Il y a seulement quatre matchs d'expérience cette année dans la LNH. Mais tu sais, au niveau international, Siloves a eu des bons matchs avec la Lettonie. Moi, honnêtement, si ça commence mal ce soir pour DeSmith, j'envoie Siloves. Vraiment, je veux voir. Je sais que DeSmith a plus d'expérience, mais en même temps, DeSmith n'a pas tant d'expérience que ça là, dans la Ligue nationale.
Ben, surtout pas en série. Là,
c'est ça.
Il avait été envoyé là, une série où les Penguins avaient envoyé trois gardiens partants en trois matchs pour amorcer la série. Mais après ça, avait été relégué au banc.
C'est vrai.
Tu as parlé de Siloves. Ouais,
DeSmith était là, quand les Penguins sont allés en finale de la Coupe cette année contre les Predators. Donc là, il retrouve le Bridgestone Arena. Là.
Exactement. Donc, mais lui, il avait été ça. Il avait vu, il n'avait pas joué. Je pense qu'il n'était même pas en uniforme. Où il était l'adjoint. Écoute, c'était l'époque où on a eu trois gardiens. On ne s'avancera pas.
Mais t'as parlé de Siloves. Non, mais tant qu'il était à l'arena, qu'il n'était pas sur Broadway à Nashville, tout est correct. Là,
la tentation devait être forte. ce que je disais, c'était Siloves. Tu as parlé de ses statistiques. Bon, cette saison, on n'a pas joué beaucoup. Pourcentage d'arrêt de 881. On va s'entendre que c'est pas quelque chose qui fait peur. Mais écoute, il a joué quatre matchs. Il en a gagné trois. L'autre a été perdu en prolongation. Il remportait des matchs. C'est sûr que c'est un concept d'équipe, surtout quand le gardien arrête pas tout à fait 9 lancés sur 10. Mais il trouvait une façon de gagner des matchs. Et là, en série, il faut que tu gagnes et maintenant. C'est pas un travail à long terme. Il faut trouver une façon de gagner maintenant. Et Siloves l'a fait pendant le court laps de temps qui a été là pendant la blessure de Demko vers la fin de la saison.
Donc, bon, si vous écoutez samedi, vous savez déjà ce qui s'est passé, là, mais quand même, la perte de Demko, là, visiblement, je pense que les Canucks, là, ça, si jamais c'est vraiment à long terme, si ces séries éliminatoires sont terminées, ça sonne vraiment rien de bon pour les Canucks. J'ai hâte de voir ce que Rick Tocchet va faire comme ajustement. Par contre, là, il se doit de relancer son attaque d'un côté, mais de l'autre côté, il doit protéger de Smith. C'est le genre de jonglerie que tu ne veux pas avoir à faire quand tu es entraîneur-chef. Dans les deux autres séries, bon, on vous en parle rapidement. Comme je dis, il y a des matchs ce soir, là, mais Jets-Avalanche, ça peut partir visiblement dans tous les sens là, parce que Connor et LeBoc qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'attend cette année. À l'inverse, Alexander Georgiev qui, bon, peut offrir le meilleur comme le pire. Dans son cas, Georgiev, bon, s'il est capable de juste fermer la porte, là, juste de s'imposer, je pense que c'est rassurant pour l'Avalanche parce que les Jets n'offrent pas le type de hockey qu'on a vu cette année de leur part, surtout contre l'Avalanche. Hein, parce que les Jets, cette année, on a gagné tous nos matchs contre l'Avalanche. On avait accordé en moyenne 1,33 buts à une puissante attaque contre l'Avalanche. Puis là, depuis le début des séries, là, à ce moment-ci, c'est 4,50. Donc, il faut vraiment replacer Rick Bowness. Se doit de replacer les choses de chez l'Avalanche. Oui, chez les Jets, plutôt.
On a beaucoup... L'Avalanche arrivait là quasiment à titre de négliger la façon qu'on a terminé la saison, la façon que les Jets ont terminé la saison. Cette victoire-là de 7-0 des Jets contre l'Avalanche, évidemment, est encore récente là, à l'esprit collectif. Donc, de voir les Jets gagner ce premier match-là en remportant 7-6, plus Georgiev a été sous les projecteurs, c'était sa faute. Est-ce qu'on retourne avec lui? Là, Justus Annunen était malade, donc on ne pouvait même pas compter sur lui. Puis c'est pas vrai qu'on allait envoyer un gardien qui n'avait même pas aucun match d'expérience dans la Ligue nationale en série. Donc on était un peu pris avec Georgiev, mais ce qu'il ne fallait pas oublier non plus, c'est qu'on l'Avalanche avait marqué 6 buts contre Connor et LeBoc. N'avait même pas réussi à gagner, sauf que ça devait représenter un coup dur.
Ça faisait mal.
Et on s'est dit, là, c'est la seule fois de la série qu'ils vont traverser comme ça, Connor et LeBoc. C'est impensable que ça va se reproduire. On arrive au match numéro 2 et on marque encore 4 fois contre Connor et LeBoc. On parle de 10 buts en 2 matchs contre Connor et LeBoc. Et là, on s'en va à domicile où l'Avalanche a été dominante complètement pendant toute la saison. Les gros canons. Oui, on fait le travail, mais on a encore l'espace, là, les Nathan McKinnon et puis les Mikko Rantanen de ce monde ont encore l'espace pour faire encore mieux à domicile où ils ont connu un succès incroyable toute la saison. Donc, je pense que les Jets vont s'estimer très heureux s'ils peuvent ressortir du Colorado avant que la série est encore égale 2-2.
Oui, exactement. On se doit de resserrer le jeu là, du côté des deux formations. C'est pareil chez les Oilers et les Kings. La série qui nous offre. On savait que les Kings ont un groupe de vétérans et un style de jeu qui vraiment se match bien à celui des Oilers. C'est-à-dire qu'on est capable d'essayer de les ralentir à défaut de gagner. Mais ça n'a pas été ça dans les deux premiers matchs de la série. Là. Ça a été assez offensif. Merci avec un grand total de 20 buts marqués lors des deux premiers matchs. Donc là aussi, il va falloir resserrer ça. Je me demande juste du côté des Kings... T'sais, est-ce qu'il va falloir penser peut-être donner du temps de jeu à David Rittich éventuellement? Puis Rittich qui n'est pas reconnu comme un grand gardien, mais qui a connu somme toute une bonne saison. Et tu as Cam Talbot, bon, qui est plus jeune. T'sais, est-ce qu'il y a de l'essoufflement de son côté? Est-ce qu'on doit regarder ça du côté de Jim Miller? Il va falloir peut-être y penser selon ce qui va se passer ce soir.
Bon, je te dirais qu'avant de penser à porter un changement devant le filet, on va surtout se concentrer à rester loin du banc de punition. Si on réussit à garder... le jeu de puissance des Oilers loin de la patinoire, on va aider la vie là, de peu non, importe non. Qui est le gardien des mm-hmm. Kings. Puis on parle de ralentir. On a ralenti les Oilers, on a juste pas ralenti Connor McDavid, du moins dans le premier match. Puis c'est Dylan Holloway qui a fait le plus de dégâts dans le match numéro 2. Dieu inégal un peu, autant de Talbot que le reste de l'équipe. Cam Talbot a sorti des arrêts sensationnels. J'aimerais laisser passer des buts qu'il aimerait probablement revoir. Mais bon, l'important, c'est qu'ils ont réussi à gagner un match sur la route. On se retourne au crypto.com mm-hmm. arena. Puis c'est sûr que d'un match à l'autre, le momentum, c'est quelque chose qui ne se transporte pas tant que ça. Même dans un match, on ne peut pas parler. Il change de côté tellement de fois que quand on change de pays, on traverse la frontière, il est dur de penser que le momentum est dans ce bagage-là. Donc, On va repartir à 9, puis si je pense que peu importe qui est devant le filet, ça va tout va passer par le comment on peut éviter le fait que Connor McDavid peut nous battre à lui seul et surtout sur le jeu de puissance.
Oui, exactement. 6 points pour McDavid lors des deux premiers matchs, donc 4 en avantage numérique. Je veux dire, c'est pas sorcier, là. L'avantage numérique, tu peux pas laisser les Oilers aller en avantage numérique. Donc, comme tu dis, là, j'ai hâte de voir si on va replacer ça ce soir. Seb, en terminant le balado, peut-être deux petites nouvelles. Tout d'abord, André Tourigny qui va diriger Équipe Canada. Tourigny, au championnat du monde, Tourigny, Équipe Canada, je veux dire, c'est un match made in heaven, comme on dit. Là. Ouais. Tourigny n'a jamais hésité à aller diriger Équipe Canada et je suis content de le voir aller sur la scène internationale à nouveau cette année.
Mais souvenez-vous, avant qu'il soit embauché par les Coyotes, il avait accepté un contrat à long terme avec Hockey Canada. Donc là, on lui en confie encore les reins des équipes quand ça adonne en bon français. A remporté la médaille d'or autant au championnat du monde, au championnat mondial junior avec les moins de 18 ans. André Tourigny connaît très bien les rouages de Hockey Canada. Hâte de voir quel genre d'équipe il va avoir sous la main parce que à part Connor Bedard, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont confirmé leur présence. Les Américains ont dévoilé une première liste, une quinzaine de joueurs. Puis on voit que la confrontation des quatre nations l'année prochaine a motivé plusieurs joueurs à étirer leur saison, à écourter leurs vacances un peu. Des joueurs qui n'auraient peut-être pas été, qui ne se sont peut-être pas portés volontaires, ont levé la main. Disent, oui, je vais venir, moi, on parle des Cole Caulfield.
C'est qui l'entraîneur qui je veux pas dire menacé, là, mais qui a.
C'était pas Chris, c'était le DG Chris Drury, je pense.
C'était Chris Drury qui a clairement dit à tout le monde, moi, si pour toi le championnat du monde, c'est pas important, ben ça se pourrait que la confrontation des quatre nations et les Jeux Olympiques. Moi, c'est une preuve que si le championnat du monde n'est pas important pour toi, mais ces compétitions-là aussi ne sont probablement pas. Puis justement, l'équipe américaine là, cette année, là, attention. Là.
Oui, puis on voit que la compétition pour un poste, quand on a fait l'exercice pour bâtir les formations potentielles, la formation des États-Unis va être redoutable. Il y a énormément de profondeur. Donc si un joueur aspire à percer cette formation-là, il mieux de mettre toutes les chances de son côté.
Oui, exactement. En parlant de Tourigny, les anciens Coyotes qui ont fait leur arrivée en Utah cette semaine, on a rencontré, il y avait 12 000 partisans au Delta Center, on a refusé du monde derrière pour accueillir, alors qu'on accueillait l'équipe, belle présentation, ça part du bon pied. Je pense que c'est rassurant de voir ça, c'est rassurant de voir l'enthousiasme là, de Ryan Smith, des nouveaux propriétaires, tout ça. On a dit qu'on est comme à 20 000 abonnements.
29 000 dépôts.
Bon, de un, ça ne rentre pas, là, 29 000 dépôts. Ouais, probablement 29 000 abonnements saison. Là, mais...
probablement différents forfaits de billets de saison, ouais, à demi-saison, ça. Tout ça. Bon. Mais on voit qu'il y a un engouement. Puis ça, c'est quand on arrive dans un nouveau marché, la Ligue nationale a sûrement fait ses devoirs. Avant d'envoyer cette équipe-là, de l'établir en Utah. On a un débat d'ailleurs sur la prononciation de Utah.
L'Outaouais, c'est...
c'est pas tout à fait à la même place, mais bon. Mais tout ça pour dire que cette équipe-là a été accueillie à bras ouverts par les partisans là-bas. Probablement très rassurant. On s'entend, les joueurs n'ont pas dû sauter de joie parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Puis là, on annonce à tout le monde, écoute, vos contrats, joueurs, entraîneurs, dirigeants ont tous été achetés par l'équipe qu'on vient d'établir là-bas. Donc, c'est pas une équipe d'expansion. C'est comme si 20 joueurs, 30 avec les entraîneurs, 30 personnes, 40 personnes ont été échangées en même temps au même endroit. Donc, c'est un processus qui est différent. Donc, je pense que cette réception-là, je veux dire, on parle d'une équipe qui est habituée de jouer devant des foules de 5000 personnes. Là, on arrive et puis il y a plus de gens qui nous attendent à la sortie de l'aéroport que pendant nos matchs locaux auparavant. Donc, c'est sûr que c'est une énergie qui va être la bienvenue. Là. Puis cette équipe-là est un plan de reconstruction bien entamé avec une jeune équipe rapide qui mise sur déjà des bons jeunes joueurs et le potentiel d'en ajouter au prochain repêchage au pluriel. Si vous regardez la panoplie de choix à la disposition de l'équipe de hockey de l'Utah pour les prochaines années, ça va leur permettre de faire beaucoup de choses, soit emmagasiner des espoirs, aller chercher des joueurs comme ils l'ont fait avec Sean Dursey l'année dernière, avec moyennant un choix et leur capacité de dépenser maintenant.
Dans le fond, ils sont à peu près, peut-être un petit peu en retard, mais c'est où les Canadiens sont là, quand on regarde, c'est la même stratégie. Là, on est en train de tourner le coin et d'aller chercher d'échanger des éléments contre d'autres. Donc, mais oui, puis je veux dire, le Smith Entertainment Group, c'est une plus grosse machine de que ce qu'on avait chez les Coyotes. On le voit, là, on a le Jazz, on a le Real Salt Lake. Je pense qu'on a un club de baseball mineur aussi. On a
un autre club de soccer mineur aussi.
Fait que quand c'est le temps de mettre quelque chose en place, là, bien évidemment, on y en a parlé. Là, ça va être 12 000 sièges à vue complète. 16 000 environ vu avec les vues obstruées. Donc, c'est pas l'idéal au niveau aréna, mais il va y avoir des rénovations qui vont se faire là, dès le départ. Puis ensuite, bon, on vise une nouvelle aréna. Mais là, ça, c'est on regarde dans long terme. Et en terminant ça, bon, ben David Quinn, qui a été congédié par les Sharks de San Jose, saison catastrophique comme on s'y attendait chez les Sharks. Ça veut dire, moi, ce que je me demande, j'ai trouvé que les Sharks, Mike Greer a été quand même froid dans sa manière de congédier un peu un entraîneur qui pouvait absolument rien faire de... Tu sais, je compare avec les Red Wings de Détroit. Quand on était vraiment au creux de notre reconstruction, on a juste... Jeff Blashill avait quand même obtenu... Tu sais, on disait, je vois pas ce que tu peux faire de mieux avec l'équipe que t'as. C'était vraiment pareil cette année avec les Sharks, mais on a décidé de faire un changement d'entraîneur. Donc, du côté de Mike Greer, on brûle une cartouche d'entraîneur. On dit tout le temps qu'un directeur général a trois cartouches d'entraîneur. Là, donc, on vient d'en brûler une.
Ben, c'est... Oui, le timing, le fait que... Moi, au début, je m'étais dit, ah, ben, c'est vrai, Mike Greer vient juste d'arriver, c'était pas son homme. Non, c'était lui qui avait embauché David Quinn à son arrivée. Deux anciens de Boston University, je pense. Donc, c'est un homme, un entraîneur qui avait embauché lui-même il y a 2 ans, sachant très bien vers quoi cette équipe-là se destinait. Est-ce qu'on avait en tête que David Quinn était là pour enseigner à très court terme aux jeunes joueurs? Parce que Mike Greer a dit, ça n'a rien à voir avec la fiche. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. C'est un très bon entraîneur, encore une meilleure personne. Ça n'a rien à voir avec la fiche sur la glace. On savait que ce n'était pas des conditions faciles. Donc, on cherche un peu le pourquoi. Peut-être qu'un candidat qui était dans la mire de Mike Greer est devenu disponible dans les derniers mois. On sait que c'est le 9e entraîneur à perdre son emploi cette saison. Donc, est-ce qu'il y a un des entraîneurs qui est tombé disponible?
C'est le 9e, mais en un an, je pense que c'est le 16e entraîneur qui perd son emploi en comptant Mike Babcock. Là. Je pense que c'est le 16e depuis un an, jour pour jour, là, avec les congédiements de l'année dernière. Là. C'est tout un roulement d'entraîneurs. Donc oui, comme tu dis, il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi, mais qui sont justement disponibles.
Exact. Puis c'est chacun, il y a certains entraîneurs qui vont être là parce qu'on sait qu'ils ont ce sont d'excellents enseignants. On veut amener une jeune équipe à un autre niveau. Mais là, quand arrive le moment de gagner, là, ça nous prend un autre entraîneur, un autre style d'entraîneur. Juste à penser au Sabre de Buffalo, on a ramené Lindy Ruff parce qu'on s'est dit, bon, OK, Dan Granato nous a amené à un certain point, mais là, pour passer, redevenir une équipe aspirante, ça prend un entraîneur qui a déjà gagné, un entraîneur peut-être qui a une autre approche, plus dure, plus ferme. Donc, chaque équipe va peut-être des besoins différents en fonction de la formation. Et puis, Mike Greer est venu à la conclusion que c'était pas David Quinn l'homme de la situation pour l'an prochain chez les Sharks.
Ouais, on verra bien là, ce qui va se passer. Il y a plusieurs équipes qui n'ont pas encore nommé leur entraîneur. Là, présentement, là, tout le monde est dans la vitrine là, pour le poste de pilote. Seb, merci d'avoir été avec moi pour cette deuxième partie de balado.
Ben, merci à toi.
Chers auditeurs, ben écoutez, je vous disais plus tôt dans l'émission, ben le balado, ben le prochain va être entre les deux prochaines rondes. Donc, soyez sûrs de nous suivre sur nos réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X, sur Instagram, sur Threads. Donc, pour le prochain épisode, pour être certain de ne rien manquer, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion. Pour être certain de ne pas nous rater, parce que justement, le laps est court présentement en séries éliminatoires entre le moment où le balado est publié et les prochains matchs. Merci à Guillaume, merci à Jean-François qui était là plus tôt dans l'émission. Encore une fois, merci Sébastien. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.